Cette semaine, la vidéo terreur, l'univers horrifique de Stephen King.
Vidéo terreur est un podcast sur les films d'horreur avec deux passionnés, Pierre Turcotte et Jimmy Francoeur. Cet épisode est produit par la télé du Haut du Lac.
Bienvenue à Vidéo Terreur. Cette semaine, pour notre dernier épisode de la saison 2, on s'attaque à un grand de l'horreur, j'ai nommé Stephen King. Et pour en parler avec moi, cette encyclopédie vivante du monde de la terreur, M. Jimmy Francoeur. Salut Jimmy.
Salut Pierre, ça va bien?
Ça va bien toi?
En forme.
Donc Stephen King, je pense que peu de gens qui s'intéressent à l'horreur connaissent pas Stephen King. Avant de parler de son cinéma, on va parler de l'homme puis de l'auteur parce que c'est de là qui a été créé l'intérêt, en fait. Il a ramené aussi, je pense, l'horreur au goût du jour à une certaine époque.
Oui, effectivement. Bon, ben, comme tu disais tantôt, le Stephen King, l'homme, il est né en 1947 à Portland, dans le Maine. Il a toujours, en fait, resté là tout au long de sa vie. Et son premier roman est en 1974, là, Carrie. Et en fait, quand tu parles, bon, justement, il a révolutionné l'horreur. En fait, je pense que c'est un des écrivains qui a beaucoup aussi amené l'horreur dans le contemporain.
Ouais.
Tu sais, on n'est vraiment pas dans le gothique, on n'est vraiment pas dans, je dirais, dans le passé. On est vraiment dans l'horreur au quotidien.
Ouais.
Donc ça, c'est assez central dans son œuvre. Puis même des thèmes aussi qui sont assez centraux. Par exemple, le côté, on pourrait dire, animiste. Là. Les objets sont souvent dotés de vie. Là. Bon, on pense à Christine, entre autres, mais il y a eu beaucoup d'objets, appelons ça, vivants. Ça, c'est un des éléments importants dans son œuvre. On va parler aussi peut-être plus tard, là, justement, de l'importance qu'il donne aux personnages. Mais en termes d'œuvre, écoute, on a à peu près une soixantaine de romans, là, je dirais, actuellement, là, parce qu'il en écrit quasiment presque en moyenne 2 à 3 par année. On était quand même 60 romans. On a des adaptations au cinéma. Là, on a environ une cinquantaine, ce qui est quand même aussi considérable. Là, qui sont bons, on pourra en parler tantôt. Là. Pas tous réussis, effectivement. Mais tu sais, on parle quand même, comme je dis, là, d'une œuvre quand même très considérable. Et je pense qu'un des éléments aussi à considérer Stephen King, c'est qu'il a réussi à passer, je dirais, non seulement, bon, je pense que tout le monde est capable de le reconnaître, là, puis aussi de passer, je dirais, d'une figure presque mythique. Là. Dans 100 ans, on lira peut-être pas les 100 romans ou les 80 romans, j'espère combien vont être rendus là, de Stephen King, mais on va quand même parler, comme en termes d'écrivain, je veux dire, ça va rester un incontournable pour longtemps. Là.
Oui, oui, puis tu sais, juste nommer ses romans, on est capable tous d'en nommer 7, 8, 10 assez facilement. Là.
Effectivement. Là.
Donc lui, il s'est mis à écrire. Il a, puis tu sais, il écrit beaucoup, c'est une machine, là. Puis en plus, ses romans, c'est souvent des énormes briques. Il a aussi écrit des romans sous des pseudonymes.
Oui, tout à fait, Richard Bachman. Il a écrit 7 romans sur le nom de Richard Bachman. En fait, bon, à un moment donné, Stephen King se pose une question qui est « Est-ce qu'on devient populaire par talent ou par chance? »
OK.
Puis, c'est un dilemme, je dirais, qui le hante. Puis, il décide d'écrire sous un pseudonyme en disant « Mais écoute, si c'est le talent, logiquement, je vais devenir populaire aussi sous ce nom-là. » Donc, il a écrit des romans sous le pseudonyme de Richard Bachman. Bon, ça a fini par se savoir là, dans les années 80. Et effectivement, là, son dilemme, je ne sais pas s'il a été résolu. Par exemple, le roman Tinner, La peau sur les os, on est à peu près à 28 000 copies là, sous le nom de Richard Bachman, qu'on a cité Stephen King, on a tombé à 280 000.
Ouais.
Mais encore une fois, la popularité ne dit pas que c'est nécessairement juste dû à la chance non plus. T'sais, c'est un dilemme, je pense, qui doit hanter tous les auteurs.
Oui, puis il nous a amené tellement de bonnes histoires d'horreur qu'on peut pas trop douter du talent. Là.
Tout à fait. Là. Puis, tu parlais aussi tantôt là, bon, l'aspect volumineux de son œuvre. Bon, tu sais, il dit entre autres que lui, il écrit tous les jours, puis que sa discipline, c'est 10 pages.
Okay.
Donc, si on fait le calcul, là, on arrive à peu près à 3800 pages par année. Bon, si on arrondit peut-être là, avec des journées moins fortes, mais quand on frôle le 4000 pages année, effectivement, ça crée des romans. Là, il dit que depuis, bon, là, il est rendu à un certain âge quand même. Là, il dit que maintenant, il se laisse aller à 7 pages. Mais c'est un auteur, je dirais, avec une discipline de fer là, qui écrit, je dirais, jour après jour, quand même une bonne quantité. Là.
Et contrairement à d'autres auteurs d'horreur, il s'est vraiment diversifié dans ses types d'histoires, j'ai l'impression. On a autant bon, des histoires de clowns que des histoires de justement de voitures. On est vraiment allé ailleurs. Là. C'est une de ses forces parce que des fois, dans des auteurs, on a l'impression qu'on a un peu une recette où on change des noms puis on a un peu la même histoire.
Oh, tout à fait. Ça, puis ça c'est un point important aussi. Je pense qu'il a réussi à ne pas se cantonner en une recette ou une formule gagnante. De toute façon, les formules gagnantes dans l'art ont tendance à s'épuiser aussi avec le temps, puis ça finit par jouer contre nous. Là. Effectivement, il a fait de l'horreur, bon, enfin, beaucoup, beaucoup, appelons ça franche, mais il a aussi fait des choses un peu plus, je dirais, dans le domaine presque du fantastique, ou La Ligne verte, par exemple,
ouais.
Shawshank Redemption, où on en a des drames un peu plus humains. Il est allé aussi dans le policier. Fait que, tu sais, je pense qu'il a quand même, bon, resté toujours un peu dans le noir, on peut dire ça de même, mais effectivement, là, sa panoplie, là, sa gamme, ben, c'est beaucoup élargi avec les années aussi. Là.
Comment il a commencé, lui? Comment sa carrière a commencé?
Ben, ça, c'est intéressant. En fait, il y a son premier roman, là, comme je disais tout à l'heure, c'est Carrie en 74. À cette époque-là, écoute, il travaille de jour dans une buanderie, puis il écrit de soir dans une roulotte avec sa femme Tabitha. Puis, écoute, ils sont extrêmement pauvres. Il en parle de cette époque-là avec une certaine nostalgie, mais en même temps, en disant, écoute, on n'avait rien, puis... Je mettais tous mes espoirs dans l'apparition de ce roman-là. Bon, le roman a quand même eu un succès, je dirais, au début, mais bon, mitigé au sens où c'est un premier roman, un premier auteur. Par contre, quand Brian De Palma va acheter les droits là, pour produire le film, ben là, je dirais que c'est là que sa popularité va monter, parce que à partir du moment où le film, là, les gens s'intéressent à l'auteur, le roman est intéressant. Fait que, je dirais, tu sais, Stephen King a au début, je dirais, été quand même assez chanceux d'avoir des cinéastes qui se sont intéressés à ses romans puis qui les ont mis au cinéma. C'est ce qui a fait aussi que je dirais que sa popularité est alimentée. Puis à partir de là, bien évidemment, c'est pas parce qu'on fait des films de vos œuvres que vous allez nécessairement être connus, mais comme les gens lisaient puis aimaient ce qu'ils lisaient, bien ça a été une réaction en chaîne. Là. Il y a quand même aussi, bon, quand on parle de sa vie plus personnelle, quand même une période difficile. Là. Jusqu'aux années, fin des années 80, il y a eu beaucoup quand même de problèmes de consommation avec l'alcool puis la cocaïne.
OK.
Puis, il avoue même qu'il y a des romans qu'il ne se souvient pas d'avoir écrits. Cujo, en fait, aucun souvenir. Fait qu'il, c'est un peu triste quand il en parle de cette période-là en disant, écoute, il y a des romans, comme je dis, que je me rappelle absolument pas d'avoir écrits. Par contre, sa relation à la consommation était vraiment, même au niveau de l'écriture, il en est venu à penser à un moment donné qu'il fallait consommer pour écrire.
Pour écrire, oui.
Et puis, à un moment donné, en fait, comment ça s'est un peu terminé, là, c'est sa femme, puis à un moment donné, qui a décidé de ramasser toutes ses canettes, tous ses sacs, puis ses pilules et tout ça, mettre ça dans un sac, puis devant la famille, elle a déballé le sac, elle a dit ça, c'est une semaine. Fait que on s'attaque à ça, ou nous, on lâche. Puis, il était avec la même femme depuis, écoute, facilement, plus de 40 ans. Fait qu'il a comme décidé qu'à ce moment-là, fallait arrêter.
Est-ce que ça a joué sur sa créativité?
Oui, ben il y a eu une période un peu, là, parce que sa grande hantise, en fait, comme beaucoup d'écrivains, là, c'était le syndrome de la page blanche. Il y a eu un peu de ça, mais il a réussi à surmonter, cet obstacle-là. Puis depuis ce temps-là, je dirais, il est abstinent. Puis, sa carrière n'a pas été affectée, mais il y a eu, à un moment donné aussi, là, l'espèce de... Je dirais le choc là, d'être à jeun là, et d'écrire. Là.
Ouais, ça n'a pas été évident. son inspiration lui vient d'où, lui?
Ben, il va raconter, entre autres, comme bon, bien des fans de l'horreur, là, que c'est les films là, qu'il écoutait là, quand il était plus jeune au cinéma qui l'ont inspiré. Les Tales from the Crypt, ici comique, là, Vault of Horror, et ainsi de suite, qui l'ont beaucoup, beaucoup marqué. Là. Puis d'ailleurs, comme beaucoup de gens de sa génération, en fait, là, beaucoup d'auteurs ou de cinéastes, Les Tales from the Crypt, c'est des bandes dessinées d'horreur là, qui ont vraiment aussi, je pense, beaucoup marqué. Puis, en fait, il va même faire un hommage à ça avec Creepshow, là, où il va être avec George Romero. Ils vont faire appelons ça une BD en images, une anthologie, là, où on va avoir là, des
quatre histoires.
Ouais, cinq.
Cinq.
Puis, effectivement, ça, c'est les deux, c'était un peu une lettre d'amour à cette période-là de leur vie. Là. Fait qu'il s'est beaucoup inspiré des Tales from the Crypt et ce genre de comics-là. Lovecraft va être cité aussi comme étant une inspiration.
Oui.
Puis comme Lovecraft aussi, je dirais, c'est une petite curiosité, mais on sait que Lovecraft aimait aussi les endroits fictifs, mais qui étaient campés quand même dans le réel, comme par exemple Arkham. Là.
Oui.
Stephen King a le même pendant avec Castle Rock.
OK.
Qui se trouve dans le Maine, mais c'est une petite ville fictive.
Qui n'existe pas
dans le Maine, mais qui a beaucoup de romans qui tournent autour de cette ville-là. Fait que plus, comme je dis, là, beaucoup de. C'est un écrivain qui lit énormément, donc c'est aussi, je dirais, beaucoup nourri là, d'autres auteurs. Là.
Qu'est-ce qui nous accroche tant dans son écriture? Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu populaire? Y a-t-il une formule ou y a-t-il touché des thématiques qui viennent plus nous chercher que d'autres auteurs ou qui sont passés un peu inaperçus, même si ça a pu faire des bons scénarios de films?
Oui, ben, je pense que ce qui fait la foi, la force, je dirais, de l'œuvre écrite de Stephen King, mais en fait aussi ce qui fait un peu son talon d'Achille au passage au cinéma, c'est sa force, c'est d'écrire des personnages qui sont crédibles.
Ouais.
Des gens auxquels on s'identifie, qu'on sent... en trois dimensions, là, qui sont pas juste, je dirais, des clichés là, transparents. Avec ces personnages ont vraiment une vie intérieure, on les sent en vrai. Il y a souvent aussi une touche de nostalgie. Là. Bon, il est très attaché aux années 50, aux années 60. On y croit, là, ces personnages-là. Fait que je pense que c'est ce qui donne une certaine, je dirais, force à son œuvre. Mais en même temps, ce qui complique, la transposition de l'œuvre au cinéma, où en une heure et demie, on n'a pas nécessairement le temps d'étoffer ces personnages-là. Donc, souvent...
C'est sûr, quand ton roman 600 pages, ton film, il reste rien qu'il y a une heure et demie pareil. Là.
Il y a une heure et demie pareil, tu sais. Fait que je pense que l'œuvre souffre beaucoup de ça. Puis, un autre élément, moi, je pense, tu sais, souvent, on va avoir aussi des critiques un peu. Les gens vont dire « Ah ouais, le film est moins bon que le roman. » De façon générale, je pense que c'est souvent vrai, là. Par contre, je pense que pourquoi on l'entend davantage, puis ça c'est ma théorie, je dirais, toute personnelle, pourquoi on l'entend plus souvent, je pense, parce que les gens lisent vraiment le roman.
Oui, oui, c'est ça.
Et la plupart des gens vont avoir lu le roman, donc ça fait beaucoup de gens qui disent « ouais, c'est moins bon que le film ». Le film est moins bon que le roman parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent, alors que quand on a des adaptations de romans que la plupart des gens n'ont pas lus, on a l'impression que le film est fantastique, là, mais encore une fois, ils n'ont pas de comparatif parce que sont moins lus.
Puis des fois, en tout cas, je ne sais pas au niveau des adaptations si c'est... des fois, on va voir des films qui sont des adaptations de romans graphiques, etc. Puis les producteurs vont changer beaucoup d'éléments, en fait. Est-ce que ces romans sont plutôt respectés quand on parle de la transposition au cinéma?
Ben, tu sais, comme on disait tantôt, là, à partir du moment où il y en a une cinquantaine, c'est assez, varié. Tu sais, on en a des adaptations que, à part dans la structure, mettons le dernier, là, ça, Hit. Où je pense que c'est assez fidèle au roman, de part aussi. Les personnages sont quand même, je dirais, quand même bien campés. T'sais, on est dans des adaptations assez fidèles, même si, on a choisi de le faire un peu en deux blocs. Le roman n'est pas structuré comme ça. Puis dans l'autre extrême, là, on peut se rendre à quelque chose. Je ne sais pas si tu viens, Le Cobaye ou Loudmire Man. En fait, ce qui était adapté sur une nouvelle de je pense, une dizaine de pages là, dans Danse macabre, en français... Puis, il y a le seul élément, en fait, qui vient de la nouvelle, c'est qu'il y a une tondeuse qui passe en tondeuse toute seule. D'ailleurs, Stephen King va aller en cours pour faire enlever son nom en disant « Écoutez, là, on est en train simplement de prendre mon nom pour vendre un film. » Fait que, tu sais, on est dans ces extrêmes-là. Mais en moyenne, je pense que, de façon générale, on peut se dire que l'histoire, la structure est généralement respectée. Mais c'est la profondeur des personnages qui écope beaucoup. Comme tu disais, à partir du moment où on a une heure et demie, deux heures, on fait ce qu'on peut. Là.
Il y a eu souvent aussi des critiques au niveau des adaptations de ces romans, ces films. Qu'est-ce qu'on critique surtout?
Ben, comme je disais tantôt, je pense que ce qu'on critique, c'est le peut-être la froideur ou le manque de chaleur humaine, mais qui est très dur quand même à traduire au cinéma, là, surtout dans une courte période de temps. T'sais, quand tu parlais tantôt, je trouvais ça intéressant. Tu dis, on a des romans de 500 pages. T'sais, en 500 pages, on a le temps de s'attacher.
Ouais.
On a le temps de les connaître, de les côtoyer pendant plusieurs heures, en fait. Alors qu'au cinéma, on a quelque chose comme une heure et demie pour y arriver. Fait que je pense que c'est beaucoup là que, encore une fois, que ça cloche. Puis encore une fois, je pense qu'à partir du moment où les gens l'ont lu, le comparatif devient toujours... on part avec deux prises en moins. Là.
Ouais. Fait que c'est au départ, c'est Brian De Palma qui adapte
Carrie.
Puis c'est quoi la suite des choses pour lui au niveau du cinéma, là, dans la transposition?
Ben après ça, là, je dirais le prochain film marquant, ça va être Shining en 1980 avec Stanley Kubrick. Puis ça a créé un scandale là, à l'époque, mais Stephen King n'a vraiment pas aimé cette adaptation-là. Puis
pourtant.
Et pourtant. Mais je pense que ça a clashé justement parce que on avait quand même à cette époque-là, appelons ça un jeune écrivain là, qui commence. Là, il y a à peu près 6 ans de romans en arrière de lui. Puis là, il dit publiquement qu'il n'aime pas le film. Par contre, ce qu'il faut encore comprendre, parce que bon, dans un premier plan, on a beaucoup dit ça, en fait, Stephen King, il connaît rien au cinéma. Comment peut-on critiquer Kubrick? Parce qu'effectivement, là, au niveau de la réalisation, c'est exceptionnel. Mais quand on s'attarde à sa critique, là, on comprend un peu mieux. En fait, ce qu'il dit, c'est sur le plan de réalisation, effectivement, c'est un grand film. Mais Shining, le film est un film froid, où les personnages sont très, très froids. Oui. Puis je dirais même, tu sais, même bon, il y a la scène de la neige en fait dans le labyrinthe, mais tu sais, c'est un film effectivement qui a une froideur vraiment, puis que Kubrick, c'est un cinéaste très cérébral. Hein, on est vraiment dans, tu sais, tout est, je dirais, le même pensé, mais c'est calculé. Pas un scénario, hein? C'est pas un réalisateur très émotif. Puis, en fait, ce qui a reproché justement, c'est la froideur comparativement où, dans l'œuvre, ce qu'il cherchait en fait, c'est qu'on s'attache au personnage de Jack. Puis qu'on le voit tranquillement, je reste désagrégé pour devenir un peu le monstre qu'il a à la fin. Alors que ce qu'il dit, c'est que, ce qui n'est pas faux, c'est quand on regarde Shining, on a l'impression que Jack est déjà craqué dès le début, même avant même qu'il mette le pied. T'sais, il est très antipathique, on ne s'y attache pas. Donc, on a juste l'impression que le fait d'être dans l'hôtel va juste ouvrir un petit peu la fissure qui était déjà là. C'est surtout à ce niveau-là, son rapport au personnage qu'il a moins aimé. Là. Bien, okay. Puis formulé comme ça, effectivement, on peut le comprendre. On a moins le personnage, comme je dis, principal. Il n'y a pas d'effritement. On sent juste que l'hôtel va le révéler. Là.
Mais on a quand même respecté son roman. Là.
Oh, oui. Tu sais,
pas comme, parce que je sais qu'un gars comme Alan Moore déteste tous les films qu'on fait à partir de sa fiction, mais pour vrai, on modifie tellement les films par rapport à ce qu'il a fait que je peux le comprendre.
Oh, oui, ben là, ça devient presque une parenté éloignée, là, ouais. Effectivement.
Après Shining, j'imagine que ça lui a donné une visibilité planétaire. Hein?
Oui, effectivement. Puis après ça, ben, il y a quand même un autre grand cinéaste là, qui va s'attaquer à une adaptation qui est David Cronenberg, cinéaste canadien,
oui.
Qui va s'attaquer avec Dead Zone en 83, trois ans plus tard. Puis encore une fois, tu sais, Dead Zone a été reçu de façon, je dirais, un peu mitigée. Mais je pense qu'il faut comprendre aussi le réalisateur. C'est-à-dire que David Cronenberg, bon, on sait ce qu'ils ont. Son œuvre, c'est une œuvre en fait beaucoup
viscérale,
organique, qu'on est beaucoup dans le thème du rapport à la chair, avec Shivers, Rabid et compagnie, Vidéodrome. Donc, Dead Zone est un peu, je dirais presque étrangère à David Cronenberg. Il va réaliser ce film-là, mais on ne le reconnaît pas. Donc, les fans sont un peu déçus, mais c'est une bonne adaptation, je dirais, qui est tout à fait respectable.
Okay.
Mais qui, comme je dis, qui va clasher en fait en fonction plus de Cronenberg que de Stephen King. Là.
Puis à partir des années 80, mais là, écoute, il y en a, là, à peu près tous ces romans ou presque là, vont être adaptés. Là.
Oui, effectivement. T'sais, après ça, bon, on a entre autres Christine avec Carpenter en 83, la même année, en fait. Puis là, déjà là, ça parle. T'sais, on est déjà dans la même année, on a déjà au moins deux films là, qui vont être produits. Même chose avec Carpenter, en fait, on avait beaucoup d'attentes parce que Carpenter, t'sais, Halloween n'est pas si loin derrière lui. T'sais, on a eu The Fog, il est sur une lancée. Puis à cette période-là, en fait, Carpenter aurait souhaité en fait faire d'autres choses que de l'horreur. Il aurait aimé, je dirais, se distancier un peu, élargir un peu sa palette cinématographique. Puis il arrive avec Christine avec quelque chose bon qui a plus ou moins le goût de faire à ce moment-là dans sa vie. Donc, je dirais les éléments beaucoup plus horrifiques parce que, par exemple, bon, dans le roman, vous avez chaque fois que Christine tue quelqu'un, il se ramasse un peu comme en zombie fantôme dans le derrière de l'auto. Là, fait que alors que cet élément-là dans le film n'apparaît pas. Donc, tu sais, Carpenter a beaucoup enlevé, je dirais, les éléments d'horreur pour peut-être le mettre à son goût à lui, mais il a beaucoup regretté par la suite. Carpenter l'a dit souvent qu'il aurait dû être beaucoup plus fidèle puis beaucoup plus, je dirais, fidèle au côté horreur du roman. Donc, c'est une œuvre, je dirais, qui est quand même super intéressante, mais qui, effectivement, peut, pour certains, paraître un peu plus fade, là.
Si on continue rapidement, on va avoir aussi Hit qui a été fait pour la télévision à l'époque.
Avec Tommy Lee Wallace, qui va être le réalisateur de Halloween 3, qui a fait en fait peu de films, là, qui est un ami de Carpenter, qui va faire une adaptation à la télé, quand même, je dirais, respectable.
C'était honnête.
On est assez proche aussi du. Ben, même au niveau de la structure, on est probablement beaucoup plus proche du roman que de la nouvelle adaptation au cinéma. Là. Puis il y a d'autres films aussi bon, qui vont avoir quand même un succès, qui vont un peu éloigner Stephen King de l'horreur. Puis qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne savent pas que c'est lui, comme Stand By Me.
Ah oui?
Qui est, je dirais, plus une histoire de nostalgie d'enfant puis de rapport un peu à l'amitié. Il n'y a rien d'horrifique, en fait, là-dedans. Là. peut-être même le seul élément là, où on trouve un cadavre, là, ce qui tout tourne autour de ça, mais outre ça, La Ligne Verte, entre autres aussi, Shawshank Redemption. Donc, il a touché à des éléments un peu plus, je dirais, humains, bon, avec peut-être des touches de fantastique. Puis il y a beaucoup de gens même qui ne savaient pas nécessairement que c'était ça. Là.
Oh, et puis il y a eu des moments marquants. Là. Moi, je sais que Misery était un film... non, mais c'est sur la glorification des gens, notre rapport avec le vedettariat. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Ouais. Il a fait beaucoup de choses, puis il s'est aussi essayé à la réalisation.
Oui, mais juste une petite anecdote avant avec ton Misery, c'est intéressant parce que ça parle justement, là, tu sais, si on voit, parce que si on a lu le roman, le personnage principal là, qui est cloué sur son lit est beaucoup en sevrage. Hein. Ça parle justement de sa période justement là, de cessation de consommation.
OK, je vois le lien.
Puis, tu sais, le personnage principal est aussi un écrivain. Fait que c'est beaucoup, beaucoup transposé dans ce roman-là, dans son combat justement contre la drogue puis la consommation, puis son rapport au sevrage, puis la créativité. Fait que ça, c'est un roman, je dirais, assez personnel. Oui, fait que là, pour en venir à ta question, au niveau de la réalisation, il s'est essayé avec Maximum Overdrive fin 80. Ça a été un cuisant échec. En fait, c'était un peu ça. Je pense que c'est lui-même piégé en disant, mais écoute, si j'ai jamais d'adaptation qui me satisfont, je vais le faire moi-même.
Il a réalisé que c'est complexe, le cinéma. Ouais. Là.
Oui, tout à fait.
C'est une autre manière de raconter des histoires.
Oui, effectivement, c'est une autre manière de raconter des histoires. Puis, bon, il a eu l'humilité d'avouer que c'était pas sa place. Il a même aussi essayé d'écrire vraiment un scénario, parce qu'encore une fois, écrire un roman puis un scénario, c'est pas le même mode de communication.
Absolument pas.
Il a fait ça pour Sleepwalker, un film qui a été modérément bien reçu. Fait que la relation, je dirais, de Stephen King au cinéma, je pense que a peut-être changé au fil des années où on a des films maintenant qui vont peut-être l'adapter. Pas nécessairement mieux, mais je reviens à It. À partir du moment où le film doit durer les deux bout à bout 5 heures, ben là, on est capable d'avoir des personnages plus étoffés, mais la formule 1h30, elle donne des résultats mitigés. Là.
Oui, et puis on est déjà pour lui à ce qu'on fasse des remakes de films qu'on a déjà faits. Donc, ça va bien, puis il continue à écrire, donc on va sûrement avoir encore... Hey, merci, Jimmy, pour cette intrusion dans la vie de Stephen King et de son cinéma. Merci à vous d'avoir été des nôtres tout le long de cette saison. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez toujours nous écrire à videoterreur@hotmail.com. Et si vous avez des suggestions pour la saison 3, parce qu'on termine aujourd'hui la saison 2, ben écrivez-nous, ça vous nous fera un plaisir de regarder ce qu'on peut faire avec ça. Merci beaucoup de nous suivre et nous, on se dit à peut-être une saison 3. Sinon, bonne vie et continuez d'écouter des films d'horreur. On aime ça.
À bientôt.
Vidéo Terreur est une réalisation de Jean-François Bourbeau, animée par Pierre Turcotte et Jimmy Francoeur. La captation vidéo et sonore a été réalisée par Luc Paul et Jean-François Bourbeau. L'ambiance sonore est une création de Jean-François Bourbeau. Coordination Andréane Bouchard. Pour nous rejoindre, videoterreur@hotmail.com.
Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.